Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier également l'Université de Toulouse-Savoie, Xavier Michaud et Madame Zoubedi, donc pour m'avoir invité, peut-être un peu rapidement, mais bon, je crois que c'est également le rôle des enseignants-chercheurs d'essayer de véhiculer des messages vers des jeunes comme vous qui allaient entrer dans des carrières scientifiques. Alors, en fait, je voulais vous parler, c'est donc d'un sujet qui touche au risque, à l'environnement et à la technologie. Bon, donc avant de commencer, s'il y a des questions, bien entendu, vous savez qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses qui sont légèrement insatisfaisantes. Donc n'hésitez pas à poser des questions, notamment s'il concerne un point de compréhension qui vous aurait échappé ou j'aurais été trop rapide. Donc de quoi s'agit-il ici? Eh bien en fait, on va voir un petit peu d'abord les technologies. C'est quoi les technologies? À quoi ça sert? Eh bien en fait, les technologies modernes, c'est essentiellement dans notre monde la production d'énergie, donc convertir le charbon en électricité, le pétrole en électricité également, donc de la matière fissile en électricité. Les produits finis, bien sûr, nous passons nous sommes environnés de produits de diverses natures, allant des nanotechnologies aux produits de grande consommation, et il y a bien sûr un savoir-faire pour le préparer. En fait, il y a ensuite un deuxième grand point qui sont les transports, également qui sont très gourmands d'énergie et qui concernent également notre monde actuel. Alors tout le monde sait qu'il y a des risques. Il y a des risques associés, bien sûr, pour les installations, c'est les dysfonctionnements dans les installations fixes, une usine qui a un problème, une explosion, un déversement d'un produit toxique dans l'environnement, etc. Il y a aussi les transports terrestres, aériens et maritimes, fluviaux, qui présentent des problèmes, d'abord les accidents de personnes, bien sûr, qui sont tout à fait déplorables, mais également les accidents liés au transport de matières dangereuses, donc avec dispersion de ces produits dangereux, les marées noires, etc. Et donc tout ceci, si vous voulez, a amené les scientifiques à se poser la question, est-ce qu'il existe une culture, est-ce qu'il existe une science du risque? Alors, donc, sans vous rentrer dans les détails, je vous ai quelques définitions, et ensuite nous passerons à un exemple pratique, comment on arrive à maîtriser le risque. Alors, qu'est-ce que c'est que des notions de danger, de risque? Alors le danger, c'est un ensemble, si vous voulez, de processus qui s'enchaînent et qui conduisent à un événement non souhaité, qu'on appelle ENS. Donc, vous voyez déjà, accident, incident, catastrophe majeure, est donné, donc l'acronyme c'est ENS, événement non souhaité. Et donc, vous avez le schéma qui est très classique, vous avez toujours, et les scientifiques parlent de ça, une source de danger, une source, vous avez ensuite un flux de matière ou d'énergie, et ensuite vous avez une cible. Et bien entendu, donc c'est le passage de la source, déclenchement de la source, par un flux de matière sur une cible qui va donc provoquer l'événement non souhaité. Alors ça, c'est un schéma simplifié. Vous voyez bien également, vous imaginez que si la cible, par exemple ici, cette cible peut de nouveau servir de source, par un autre flux donc, de matière ou d'énergie, peut donc de nouveau créer un autre événement non souhaité. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle le phénomène aggravant, l'effet domino. Un exemple, c'est Fezzan. Fezzan, c'est tout simplement une panne d'un gaz liquéfié, de propane, que la personne n'a pas su fermer parce qu'il y a un dysfonctionnement. Cette nappe de gaz liquéfié s'est écoulée, a traversé l'autoroute. Une voiture a enflammé cette nappe de gaz qui ensuite elle-même a enflammé des bacs de stockage de carburant. Donc vous voyez l'effet domino, c'est ce que les catastrophes majeures que répercutent les grands médias. Et en fait c'est ceci, c'est un exemple typique, il y en a d'autres bien sûr. Alors, ensuite c'est que le risque, danger, donc c'est un événement non souhaité. Le risque en fait c'est la mesure du danger en termes de probabilité, autrement dit un danger. S'il arrive fréquemment, le risque va être grand. Si le danger arrive, se produit peu souvent, c'est un risque qui est faible. Une autre notion, c'est la gravité. Donc ça, c'est la fréquence. Vous avez donc un risque, c'est la gravité, et donc le risque peut être grave, donc en termes de mort, de coûts économiques, etc. Et donc, vous voyez tout de suite qu'on arrive, en faisant un petit peu donc, l'état des lieux, on va arriver à une zone où on va dire le risque est acceptable, ou à une autre zone où le risque va être inacceptable. Deux exemples. Un risque acceptable, vous prenez une voiture, vous êtes passager d'une voiture, vous courez un risque, vous savez très bien que vous courez un risque, mais vous l'acceptez. Par contre, le risque inacceptable, eh bien, en quelque part, souvent, c'est des risques qui sont extrêmement... C'est des événements qui sont très graves, comme, par exemple, une centrale nucléaire, Tchernobyl, d'autres, des sites industriels, et là, on estime que le risque est inacceptable. Alors, vous savez tous manier les graphiques, et eh bien, en fait, donc, une troisième notion, c'est la criticité, qui est, en fait, donc, produit de la gravité fois la fréquence. Et donc, cette criticité, c'est ce paramètre qui est évalué pour essayer de définir donc, un scénario de risque dans une entreprise. Alors, une remarque, la même criticité, donc autrement dit, le même produit, donc j'ai pris ici une étoile, et là, une explosion, et bien en fait, le risque peut être acceptable ou inacceptable. Donc, autrement dit, vous voyez tout de suite le caractère subjectif de la notion de risque. Qu'est-ce que j'accepte comme risque? Qu'est-ce que la société accepte comme risque? Et qu'est-ce qu'elle n'accepte pas? Donc, ceci, c'est simplement pour vous donner un petit peu l'état des lieux. Alors, maintenant, vous allez dire, bien sûr, comment faire pour qu'un risque qui est dit inacceptable devienne acceptable? Ben, deux façons de le faire. La première, je vais tout simplement, essayer d'en diminuer sa fréquence. En faisant, en mettant, par exemple, les gens en garde, vers un exemple tout de suite. Ou alors, je peux aussi faire en sorte que par des barrières de protection, eh bien, en fait, on diminue la gravité, et là, ici, eh bien, en fait, on va diminuer la fréquence. Et donc, vous arrivez à des petites notions, la prévention, qui est donc généralement admise comme étant la réduction de la probabilité de risque. Là. Et la protection, qui est donc la diminution de la gravité. Alors, un exemple, si vous voulez, pour ne pas être dans le monde industriel, eh bien, vous êtes sur une... Imaginez, comment vous pouvez dire la fréquence d'accidents sur une montagne. Eh bien, en fait, il y a deux façons de faire. Généralement, les deux façons vont être utilisées. La première, c'est la réduction de la fréquence des accidents sur une route par la prévention. C'est-à-dire, on avertit les conducteurs qu'il faut respecter un certain nombre de précautions lorsqu'on conduit. Et puis aussi la protection, eh bien, on peut mettre en place des installations de sécurité, des glissières de sécurité par exemple. Un autre exemple, si vous voulez, c'est comme on saute actuellement dans la semaine du Grenelle de l'environnement, eh bien, vous savez tous qu'il y a par exemple, actuellement, il y a une technologie qui pose débat, c'est les incinérateurs. Personne ne veut d'incinérateur dans son environnement immédiat, puisqu'on estime qu'il y a eu des problèmes, etc. Eh bien, en fait, une façon de faire, bien sûr, ce serait de diminuer la fréquence des incinérateurs, mais ça, quelque part, c'est pas si simple que ça, puisque nous avons quand même beaucoup de déchets. Et donc, une autre façon de faire ça, eh bien, c'est de faire en sorte que l'incinérateur fonctionne de manière plus efficace et de manière plus sûre. Et donc, actuellement, la technologie moderne consiste, si vous voulez, à diminuer les risques, la gravité des risques, tout simplement mettre en place. Donc des barrières de protection. Alors, ça c'est le risque bien général. Et actuellement, si vous voulez, on veut des technologies qui soient sûres, bien sûr, mais également propres. Propres, ça signifie quoi? Qu'elles respectent notre environnement, et puis également qu'elles se placent dans ce qu'on appelle le cadre de développement durable, c'est-à-dire qui permettent en fait de faire en sorte que nous continuions à pouvoir vivre d'une certaine façon, tout en ne grevant pas les ressources pour les générations futures. Et donc, bien sûr, la question qu'il faut se poser, quel est l'impact de ces technologies auxquelles nous sommes habitués? Les voitures, le mode de vie que nous menons, par rapport donc à l'environnement. Alors, bien sûr, là, on parle d'impact environnemental, j'ai une petite définition. Et donc, c'est l'effet du contenu d'activité anthropique, la technologie, et je prends bien soin de dire l'activité anthropique, c'est la technologie allant de l'usine d'incinération, du mode de transport que nous utilisons, jusqu'à l'agriculture dite intensive. Et donc, vous voyez bien, on va retrouver donc, c'est l'effet d'une activité anthropique sur une composante de l'environnement. Et alors là, c'est quelque chose de nouveau, pendant une durée donnée et sur un espace défini. Et c'est là où on verra que les impacts environnementaux, tels que nous les connaissons actuellement, il n'y a pas un espace simple, il n'y a pas non plus une durée simple, elle peut être multiple et complexe. Mais vous retrouvez donc les trois donc, composantes du danger et du risque, la source, la cible et le flux de danger qui sont des composés chimiques ou énergie classiques. Et l'ensemble de ces phénomènes est ce qu'on appelle le nuisance et la pollution. Alors, dernière définition, et après je m'arrêterai au niveau des définitions. Qu'est-ce que c'est que la pollution ? La pollution est une perturbation du point de vue physico-chimique de l'environnement dit naturel, on va peut-être définir ce que c'est que l'environnement naturel, et de sa dynamique suite à une activité anthropique, donc suite à une activité de technologique. L'activité anthropique, eh bien en fait, donc c'est je viens de définir, et bien sûr, cette perturbation est généralement perçue de manière négative, bien entendu. Et donc, c'est la notion de nuisance, si vous voulez, couplée à la pollution, tout simplement par le fait que, généralement, la nuisance est quelque chose d'extrêmement local. Vous vivez dans un quartier où il y a, par exemple, une petite activité industrielle. Il y aura une nuisance due au fait, par exemple, génération d'odeurs qui viennent de l'usine. Alors, quelques impacts. Et là, on essaie de serrer un certain nombre. Bon. La santé et le bien-être des populations. Bien sûr, c'est le premier qui nous concerne, dès qu'il y a un problème de salubrité de l'eau, de l'air, etc. Dépérissement des forêts. Ça date d'il y a à peu près une petite quarantaine d'années, dans les fins des années 60. On commençait à avoir des problèmes d'arbres qui dépérissent, bien sûr, donc ici, notamment dans la région, forêt noire et également des Vosges. Qualité de l'air et de l'eau, bien sûr, et les atteintes aux écosystèmes, c'est-à-dire, par exemple, multiplication des algues, mais également diminution de la faune aquatique, par exemple. Alors, des choses plus globales et plus récentes. Le trou dans la couche d'ozone, fin des années 70, 80, début des années 80, a été reconnu. L'augmentation de l'effet de serre. Je ne dis pas l'effet de serre, je dis l'augmentation de l'effet de serre, parce qu'il y a un effet de serre qui est naturel, qui nous permet d'ailleurs de vivre. L'érosion, l'épuisement des sols, etc. Donc là, vous voyez un petit peu, on a donc ici des pollutions qui sont souvent locales ou régionales, et là, c'est des pollutions qui peuvent atteindre l'ensemble de la planète. Alors la question qu'on peut se poser, si vous voulez, sans entrer dans les détails, est-ce que depuis quand pollue-t-on ? En fait, on pollue depuis que l'homme existe. Hein, donc, mais simplement, donc, compte tenu de ce que je viens de dire, eh bien en fait, la pollution... Donc, d'activité industrielle, je donne un exemple, si vous voulez, qui s'est passé il y a au début de l'ère industrielle. Donc, c'est la synthèse du carbonate de sodium. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une implication économique et technologique qui sont toujours liées pour faire progresser et la science et la technique, et de temps en temps, bien sûr, la pollution. De quoi s'agit-il ? Le carbonate de sodium, vous savez que donc, c'est un produit qui est très important pour tout ce qui touche. Donc le traitement des haleines, fabrication des verres, des savons, etc. Et jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, on se servait du carbonate de potassium qui était extrait des cendres lorsqu'on bougeait du bois. Là, ça ne suffisait plus. Et donc, il y a un monsieur Leblanc qui, en 1755, a trouvé un procédé. Donc, sans faire entrer dans la chimie, si vous voulez, on prend du chlore de sodium, saumure, du calcaire, carbonate de potassium, l'acide sulfurique, à l'époque, on savait déjà le faire, et puis du charbon de bois, du carbone, bois de bois. Bien. Et qu'est-ce qu'on en faisait ? Eh bien, on faisait d'abord une attaque sulfurique. Donc, on coulait de l'acide sulfurique dans la saumure de chlorure de sodium, et avec un dégagement, bien sûr, de l'acide chlorhydrique. Et ensuite, on va avoir d'autres procédés. Le sulfate de sodium va être donc formé, précipité, et ensuite va réagir pour donner le carbonate de sodium. Ce qui est intéressant là-dedans, si vous voulez, c'est de voir qu'on dégage l'acide chlorhydrique. Vous avez tous reniflé au laboratoire. Ah ben, l'acide chlorhydrique, c'est un acide quand même qui est assez corrosif et qui est embêtant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout d'abord, donc, le petit atelier qui faisait l'acide chlorhydrique, eh bien, on émet l'acide chlorhydrique et on se rend compte que les arbres dépérissent. Bon, bien. Ensuite, on se rend compte que, à force de mettre un peu partout de ce genre de petites installations, on se rend compte qu'il y a un effet sur la végétation et sur les céréales, et donc les récoltes. Et là, on se dit, c'est quand même embêtant. En plus, ça, je passe très rapidement, on forme un sous-produit, si vous voulez, qui est donc de l'acide AGES, donc sulfurique, dans lequel, donc, vous savez tous, c'est agréable. D'abord, qu'il y a une odeur de pourri qui est désagréable, mais aussi qui peut être toxique. Et actuellement, dans H2S, dans l'industrie, on manipule de manière extrêmement précautionneuse. Bien. Conséquence, Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne était plus en avance que nous sur la technologie. On se rend compte de quoi ? Eh bien, en fait, arrive une situation conflictuelle entre ceux qui veulent produire et exploiter la terre et ceux qui veulent produire le carbonate de sodium. Donc, bien sûr, situation conflictuelle, et donc à l'époque, déjà, vous voyez, il y avait un syndrome d'Imbi, hein, il n'existait pas sous ce thème, mais sur en Angleterre, un autre in my backyard, ça signifie, d'accord, pour faire ça, mais aller faire ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On repousse. Mais, de toute façon, la densité urbaine étant ce qu'elle est, et bien, agricole étant ce qu'elle est, vous avez quand même des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on déplace les sites de production, ça va un certain temps. On va plus loin, et on met en place des cheminées, des grandes cheminées, et donc, à un moment donné, le législateur est appelé à se pencher sur le problème, et on arrive au problème de dire, donc c'est l'Alcali Act, le premier acte à ma connaissance, où il est stipulé que, donc sur une production industrielle, que, eh bien, en fait, il faut mettre en place des grandes cheminées, des systèmes de capture d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, comme vous savez, c'est très soluble, il suffit de passer dans une laveur d'eau, et puis vous n'émettez plus d'acide chlorhydrique. Parfait. Mais simplement, cet acide chlorhydrique, qu'est-ce qu'on en fait ? Leur solution maintenant. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a un transfert de pollution vers l'air, de l'air vers l'eau, avec notamment la corrosion des bateaux. Je vous rappelle qu'il faut faire que dans ces actes, on ne parle pas de pollution, de poissons qui ont des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'à la limite, quelques poissons qui nageaient sur l'eau à l'époque, ça ne posait pas trop de problèmes. Par contre, la corrosion des bateaux, sachant que l'activité fluviale est très importante en Angleterre, eh bien ceci n'est pas possible. Et donc, in fine, au bout d'un siècle en gros, eh bien, comme ce procédé était trop polluant, eh bien, on en a fait en trouver un autre, c'est Solvay également, donc ici en Lorraine, et ce procédé est toujours utilisé, parce qu'on l'utilisait même au départ, mais simplement on va trouver un autre procédé dans lequel on va émettre beaucoup moins de polluants ou des polluants qui sont plus facilement gérables. Donc vous voyez, l'histoire nous apprend que finalement, eh bien, en fait, c'est uniquement, on ne traite un effluent uniquement si l'impact est avéré. Et donc, jusqu'aux environs des années 60, qu'est-ce qu'on faisait ? Le but, c'était de faire un produit fini. Ce produit fini, ça pouvait être bien sûr soit de l'énergie, soit une matière ou un matériau. Eh bien, c'est cette ligne qui nous intéressait. Et puis, tant pis pour les effluents. Donc, soit l'eau, soit l'air, qui vont polluer donc l'environnement. Et donc, ceci, c'est quelque chose qui a perduré pendant un certain nombre d'années. Et donc, simplement, vous êtes simplement au courant de ce type de schéma, ça pour vous dire que la complexité de résoudre un problème de pollution est extrêmement importante, elle est extrêmement grande, puisque vous savez tous que l'environnement contient donc trois compartiments majeurs qui sont en interaction, hein, donc, par exemple ici, là tout simplement c'est la précipitation donc de l'eau, là c'est l'évaporation, etc. Vous avez les organismes vivants là-dedans, tout ça est en interaction très forte avec des cycles qui vont de l'année à plusieurs millénaires, et donc vous avez maintenant là-dessus l'activité humaine qui elle aussi va donc affecter les organismes vivants, mais également l'air, l'eau ou le sol. Et donc, eh bien, il faudra essayer de voir quels sont tous les impacts possibles, et donc c'est ce qu'on fait actuellement, en essayant de prévoir tout ce qui se passe. Alors, si on regarde bien, on peut traiter l'impact des environnements sur deux grandes façons. Il y a l'effet direct. Un camion se renverse dans la route. Vous avez un déversement d'un produit toxique. Eh bien, vous avez tout de suite donc un impact qui va se manifester par un nuage toxique, une émission de fluor, des versements de cyanure dans l'eau, etc. Plus pernicieux, les effets à long terme, à plus ou moins long terme, c'est typiquement, c'est 20 ans, au-delà de 20 ans, la mémoire se perd. Et donc, par contre, on va trouver des problèmes qui vont se révéler beaucoup plus tard, comme l'accumulation, la diminution dans un compartiment de composés présents naturellement. Les dérivés chlorés, par exemple, dans la chaîne alimentaire, il y en a très peu. Il y en a un petit peu, mais il y en a très peu. Et donc, des gaz à effet de serre, vous avez aussi une diminution, par exemple, la couche, le trou d'ozone, si vous voulez, qui existe naturellement, mais qu'on a amplifié par l'émission de ce qu'on appelle les fréons, les chlorofluorocarbones, par exemple. Et donc, ce qui, depuis à peu près une... Depuis à peu près 5 dernières millénaires, on avait une distribution quasi-stationnaire des substances. Vous savez, le cycle des substances, le carbone, l'oxygène, l'eau, etc., dans la procédure, dans les différents réservoirs, on se rend compte qu'il y a eu des dérives, et donc ces perturbations, là, typiquement, du début de l'ère industrielle. Un exemple ici, vous connaissez tous, c'est donc le problème de l'évolution du CO2, qui, vous voyez, effectivement, donc ça, c'est mesuré dans les inclusions d'air dans les glaciers, et donc on voit très bien qu'il y a eu des pollutions. Je dis aussi que, par exemple, on voit, dans l'époque romaine, on trouve dans les glaciers des inclusions de plomb et de mercure dues à leur métallurgie qui était assez polluante. Alors aujourd'hui, comment fait-on? Eh bien aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une gestion un petit peu plus soignée des rejets. C'est-à-dire qu'on a toujours ici notre limite, donc on a des matières premières, des technologies maintenant propres, pour faire des produits finis. Et donc, pour qu'elles soient propres, eh bien, on va traiter les rejets, soit donc gazeux liquides ou solides, soit bien sûr, tout d'abord, en les diminuant, ou en les inertant. Diminution, c'est-à-dire on se débrouille pour que, par exemple, une centrale thermique qui fonctionne avec du charbon soufré, eh bien, on va absorber le soufre, on va détruire, en débarrasser le charbon du soufre avant de le traiter. Ou alors d'inerter, par un procédé chimique, on va trouver une autre molécule qui est moins dangereuse. Une autre façon de faire, c'est de valoriser, c'est encore mieux, de recycler le produit. Autrement dit, on a des rejets, et on va essayer de les valoriser ou de les recycler, pour finalement les utiliser soit dans un but de valorisation, soit les recyclant pour une matière première, pour le procédé, ou pour un autre procédé, de manière à faire en sorte que le déchet ultime ici qui va apparaître soit le plus faible possible en quantité, mais également en nocivité vis-à-vis de l'environnement. Simplement pour montrer effectivement que, donc je prends des chiffres délibérément qui datent quand même des années 80, eh bien vous voyez que donc en 17 ans, eh bien la production annuelle, si vous voulez, des composés, des grands composés intermédiaires, augmenté de 77% en moyenne, ce qui est normal, puisque la production augmente donc annuellement de quelques pourcents. Et vous voyez que les émissions, là j'ai pris délibérément que ceux qui se classent dans l'air, l'anhydride sulfureux, donc pour la fabrication d'acide sulfurique, moins 82% d'émissions en moins, si vous voulez. Donc la réduction des émissions a pu se faire. Elle a un coût, bien sûr, mais elle peut se faire. Le dioxyde d'azote, donc pour la synthèse de l'acide nitrique, 57%. Les poussières, comme vous savez, qui sont extrêmement dangereuses, 84% de poussières en moins. Autrement dit, actuellement, malgré le fait que nous avons de plus en plus de sources de pollution, et bien en fait, nos villes sont quand même plus propres qu'il y a une trentaine d'années. Ça, c'est incontestable. Tous les capteurs le montrent. Simplement, nous sommes maintenant de plus en plus sensibilisés à ça, et donc notre seuil d'éveil est de plus en plus grand. Alors, je pourrais continuer, bien sûr, des exemples généraux, et je pense que je voudrais vous montrer simplement comment on arrive dans une technologie que tout le monde utilise. Si vous voulez, je peux prendre la synthèse d'acide sulfurique, j'aurais pu prendre la préparation de polymères, etc. Et bien, en fait, je vais prendre un exemple de traitement des fluents gazeux en essayant de faire en sorte de vous montrer deux choses. La première, tout le monde veut que la voiture marche bien. On veut payer plus, bien sûr, le carburant ou le gaz qui est abordable pour le coup. Et en plus, il faut qu'elle soit propre, notre environnement. Donc, on va parler un peu de la dépollution automobile. Alors, d'abord, avant ce que vous dépouillez, il faut voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien donc, vous savez tous qu'il y a deux types de moteurs. Il y a le moteur à allumage commandé, voiture à essence. Le moteur à allumage par compression, moteur diesel. Et vous voyez ce qu'il y a, donc en jaune, c'est les grands polluants. Donc on retrouve les oxydes d'azote, qui sont souvent exprimés dans NOx, NOx, hein, NO et NO2. Vous voyez que, par exemple, là c'est quelque chose d'intéressant. Regardez l'oxyde d'azote pour l'allumage commandé, 4 ppm, l'allumage par compression, 600 ppm. Ça vous permet de dire que certaines personnes vont vous dire que le diesel est plus propre que l'essence. Ah oui, sur la base des NOx, c'est tout à fait possible. Monoxyde de carbone, c'est la même chose, beaucoup moins polluant, le moteur à diesel. Par contre, là où il est, donc ça c'est l'hydrocarbure à brûler, et là vous avez les suies, donc évidemment, ça c'est le gros problème, c'est le point faible du diesel. Vous avez tous déjà démarré derrière, vous mettiez derrière une voiture qui est derrière un camion qui démarre, et vous avez un nuage de pollution qui est assez important. Et donc vous voyez un petit peu, également, ce problème n'est pas innocent, puisque en Europe et aux États-Unis, les émissions de gaz polluants à partir des voitures représentent en gros la moitié des émissions totales. En gros, après, il y a deux tiers pour l'industrie et un tiers pour le tertiaire, c'est-à-dire les activités de monsieur. Alors, quels sont les polluants automobiles réglementés? Alors, donc, d'abord, donc bien sûr, on fait comment? Vous avez l'oxyde d'azote, NO, NO2, qui sont donc essentiellement donc, les risques, c'est le brouillard photochimique. Vous savez tous, à Strasbourg, comme à Mulhouse, comme toutes les grandes villes d'ailleurs, et bien en fait, vous avez un problème de pollution à l'ozone, parce qu'en fait, c'est NO et NOx qui vont donner de l'ozone par des réactions donc, photochimiques. Le monoxyde de carbone, qui est toxique et qui participe aussi à la pollution photochimique. Vous avez l'hydrocarbure à brûler, donc ça s'appelle les composés organiques volatiles, les COV, qui sont émis directement sous forme d'hydrocarbure, mais également sous forme d'aldéhyde. Dans les garages, par exemple, vous avez toujours de l'acre, c'est l'acroléine qui vient en fait des émissions du moteur de diesel à froid. Donc ça également, c'est un produit qui est cancérigène. Donc, et bien sûr, pour terminer, vous avez des suies pour le moteur diesel, pénétration dans les alvéoles pulmonaires et transport, bien sûr, de produits cancérigènes, ce qu'on appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Bien, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de réduire ça? Je vous donne ici le résultat de différentes campagnes donc, de réduction donc, des programmes européens. Donc Euro 1, si vous voulez, c'était le recensement des différentes pollutions, c'était avant 96, et là, si on admet une base d'émission de 100, eh bien, vous voyez qu'au fur et à mesure des programmes européens, Euro 2, Euro 3, Euro 4, eh bien, on a réduit pour le moteur à essence de manière considérable l'hydrocarbure, par exemple, ici. Eh bien, en fait, ça signifie qu'actuellement, eh bien, on a 19% de la teneur en hydrocarbure qu'il y avait en 96. Donc, en gros, en 10 ans, on a réduit de manière considérable, quand même, les émissions. Donc pour les oxydes d'azote, c'est pareil, et CO, c'est pareil. Bien. Moteur diesel, la même chose, à ceci près que, vous voyez ici, pour CO, on a peu étudié la diminution, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Par contre, on a porté essentiellement l'effort sur les particules. Et donc, actuellement, par un procédé, donc vous connaissez tous le filtre à particules, et bien vous voyez qu'on a réduit par un facteur 5 les émissions de suie. Et donc actuellement, donc, le programme est en cours pour 2009, c'est la réduction des émissions d'oxyde d'azote sur les poids lourds. Alors, le principe des réductions, comment fait-on? Première chose, c'est le garagiste, qui a déjà réglé le moteur. Ça se fait depuis, bien avant que vous soyez étudié. Et bien en fait, on a commencé à avoir imposé la réglementation sur les émissions de l'oxyde de carbone. Ça c'est dans les années 60. Et donc, la réduction des émissions de CO, c'est par le réglage du carburant. Alors, ce moteur diesel aussi, eh bien, il faut réduire donc les émissions de suie. Alors, comment fait-on? Donc, par réglage moteur, bon, on peut aussi, donc les diesels, on peut diminuer les émissions de suie, mais pas les supprimer. Alors, il y a un problème, c'est que lorsqu'on commence à regarder de plus près, si on veut supprimer les suies, par exemple, sur le diesel, eh bien, on peut trouver des fonctions de moteur où vous avez été très peu dessus. À ce moment-là, vous allez émettre des oxydes d'azote, pas terrible non plus. Et vice-versa, vous diminuez les oxydes d'azote, vous augmentez les sucres. Et donc, à un moment donné, ben, il faut recourir à des traitements spécifiques de dépollution, et c'est là où le chimiste, le physico-chimiste et l'ingénieur procédé vont devoir s'atteler à la tâche. Alors tout d'abord, ce défi a été relevé, a été gagné, si vous voulez, en gros, et bien sûr, il y a une petite amélioration à faire, mais regardez un petit peu qu'est ce défi. Il faut traiter des polluants de nature différente, un oxyde d'azote, un hydrocarbure, un monoxyde de carbone, vous êtes tous des nobelisables dans quelques années en chimie, vous savez tous que ce sont des produits qui ne sont pas tous les mêmes, donc il faudra quelque part trouver une solution pour traiter des familles de polluants différentes. Bien. Autre problème, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et c'est ça aussi un problème, c'est que finalement, traiter un gramme de CO ou un centième de gramme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc là aussi, il y a un défi. Et en fait, le débit du gaz, donc le gaz échappant, on dit la durée pendant laquelle vous pouvez traiter le gaz est relativement faible, puisque votre débit gazeux, c'est de l'ordre de 20 à 50 litres par seconde. Donc, comment fait-on? Alors, autre contrainte, le système doit être embarqué. C'est très simple, mais personne ne veut traîner derrière sa voiture une espèce de cabinet de remorque dans laquelle il y a les instruments de récupération des systèmes de pollution. Il faut les embarquer. Ce qui signifie qu'il faudra les miniaturiser, de faire en sorte que le système soit intéressant. Vous avez tous vu les 307 lorsqu'elles sont apparues. La 307, avec caractéristique, elle est plus haute sur roue que les autres voitures. Et la raison pour ça, c'est pas pour le look, c'est tout simplement c'est que personne ne veut perdre les centaines de litres de volume dans le coffre, eh bien il a fallu surélever la voiture pour pouvoir mettre le système de dépollution sous la voiture. Donc vous voyez, c'est des petites modifications, mais qui demandent souvent de grands changements. Et enfin, bien sûr, le coût d'équipement et de fonctionnement doit être raisonnable, puisqu'il faut qu'on puisse quand même rouler de manière économique. Alors, on va voir très rapidement, si vous voulez, donc les deux cas, le moteur à allumage commandé, l'essence, et le moteur à allumage par compression. Alors, un peu de chimie, pas beaucoup, rassurez-vous. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, en fait, comme j'ai dit, on a donc différents types d'oxydants, de polluants, les oxydants. Alors, CO, il faut l'oxyder, hydrocarbures également. Donc, avec l'oxygène, et donc, il faut qu'il y ait de l'oxygène présent dans le système. Alors, par contre, la réduction des oxydes d'azote, eh bien, elle ne pourra pas se faire en présence d'oxygène, il faudrait plutôt du CO, ou alors d'hydrocarbures, ou voire de l'hydrogène. Et donc, vous voyez qu'on a donc une situation un petit peu délicate, à savoir que pour dépolluer, dans certains cas, il faut des réactions en présence d'oxygène, et dans d'autres cas, il faut des réactions en absence d'oxygène. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un compromis. On va trouver une situation où, eh bien, en fait, les oxydations sont encore possibles, avec l'oxygène, et où les réductions sont également possibles. Alors, je vous passe les diagrammes qui montrent tout ça. Mais en fait, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, en fait, on travaille donc juste à la stoichiométrie. On va essayer de brûler l'hydrocarbure avec, si possible, en laissant juste un tout petit peu d'oxygène. Très très peu, typiquement de l'ordre de 1% par rapport à ce qu'il faut pour brûler les hydrocarbures. Et donc, dans ces conditions-ci, eh bien, vous avez donc ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Et on appelle ça donc la richesse du mélange, qui est égale à 1. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la Formule 1, vous avez une idée? Les voitures de Formule 1, elles ont une richesse égale à 1, supérieure à 1 ou inférieure à 1? Vous avez une idée? Pas? Sachant très bien que l'argent ne compte pas pour, du moins le coût moteur, le coût de moteur ne compte pas lorsque vous êtes en Formule 1. Vous avez une idée? On est en mélange riche, absolument. On a un excès d'hydrocarbure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aura à ce moment-là un démarrage, on aura des démarrages fulgurants, si vous voulez. Alors, bien sûr, économiquement, c'est pas rentable. Bien sûr. Et alors on verra un autre cas, le moteur diesel, par exemple, lui au contraire, est un moteur d'une richesse inférieure, un moteur pauvre, on travaillera en excès d'oxygène. Donc là, eh bien, en fait, on va donc se débrouiller pour que eh bien, la stoichiométrie soit toujours proche de 1. Alors comment fait-on ça? Eh bien, le lambda étant le signe de la richesse chez les mécaniciens, eh bien en fait, donc on a une sonde, on met une sonde sur la voiture, et cette sonde va donc tout simplement réguler le. Pardon. Cette sonde va réguler donc, la pression d'air. Donc ça c'est électronique, c'est embarqué, et donc c'est un tout petit logiciel que, donc, qui va fonctionner sur votre voiture, et vous ne pouvez plus bricoler votre carburateur comme dans le temps. Une autre contrainte, si vous voulez, c'est les temps de séjour, comme j'ai dit, sont relativement courts, en circuit d'échappement. Et donc, il faut nécessairement augmenter la vitesse de réaction. Un exemple, vous savez que monoxyde de carbone, comme j'ai dit, brûle avec l'oxygène, on a du CO2. Il existe des bouteilles de monoxyde de carbone, que vous pouvez, des petites bouteilles que vous pouvez acheter, et vous ouvrez la bouteille, dans les précautions, CO ne brûlera pas. Il faut une courbe pour cela, que la vitesse de réaction augmente, et ce qu'on appelle donc ceci, il faut mettre un système catalytique, un catalyseur qui fait qu'à une température donnée, votre vitesse soit accélérée. Et là, donc, on utilise généralement donc, les catalyseurs qui sont des métaux précieux. On verra ça un petit peu plus par la suite. Enfin, donc il faut mettre en place, donc vous voyez, un système de dépollution qui permet de traiter tous les gaz de manière efficace et rapide. C'est ce qu'on appelle donc le moteur essence, le convertisseur catalytique 3 voies, ou plus vulgairement ou trivialement le pot catalytique. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez ici donc le bloc moteur, hein, vous avez la pression d'air. Alors imaginons que vous avez un carburateur ou une injection directe, actuellement c'est toutes des injections directes, mais ça marche également encore pour les autres. Et donc vous avez ici les gaz d'échappement, vous avez ici le son lambda, qui est tout simplement une espèce de céramique qui agit comme un condensateur, dont l'impédance va varier en fonction de la richesse en oxygène, et donc qui va réguler votre admission donc, d'air, ou plutôt de d'air, oui, d'air, pas de carburant, d'air. Et donc ensuite, ici, donc ceci, vous avez ici un mélange plus ou moins stoichiométrique, donc très peu d'oxygène ici, et vous avez ici donc, le pot catalytique proprement dit. Et donc ce pot catalytique, comment il se présente? Eh bien, vous avez ici donc le gaz d'échappement, là vous avez une tubulure, vous avez le pot catalytique qui est là, et donc lorsque j'agrandis ceci, eh bien donc il est ici, là, un espèce de monolithe, mais ça monolithe, qui donc est une céramique, qui contient donc des petites perforations, et donc j'en ai ici un modèle, c'est un modèle donc de 206, donc catalytique, et donc vous verrez s'il y a des petits canaux, vous pouvez le passer, je voudrais bien récupérer si c'est possible, puisqu'il me sert pour un certain nombre de démonstrations, donc si vous voulez, vous avez donc ce monolithe, et bien donc par la tranche, vous allez voir des petits canaux, et donc lorsque je vais agrandir ces petits canaux, là, eh bien, vous avez ici votre petit canal, vous avez le gaz d'échappement qui va passer dans ce canal. Typiquement, c'est de l'ordre du millimètre, donc la taille du canal, et la taille du monolithe, c'est de l'ordre d'une trentaine de centimètres. Et donc, pendant le passage dans chaque tube, eh bien, vous aurez donc, par un choc des molécules contre les parois, vous aurez donc la dépollution qui va se faire. Alors comment ça se fait? Eh bien en fait la dépollution, bien sûr, le gaz va heurter, les molécules de gaz vont heurter la paroi, et donc à ce niveau, là, vous avez, donc ici je vais agrandir cette couche, qui est véritablement la couche catalytique, qui se présente de la manière suivante. Vous avez des molécules de gaz qui arrivent ici, qui vont rentrer dans une couche d'induction poreuse, qu'on appelle le washcoat, la langue anglaise, hein, dans la langue dominante en technologie, il faut reconnaître. Donc les molécules rentrées là-dedans vont arriver sur les petites particules ici, qui sont des particules de catalyseurs. Donc ce sont des particules métalliques de platine, de palladium, de rhodium. La taille de ces petites particules, c'est d'ordre de 5 à 10 nanomètres. Donc on est dans le domaine des nanomatériaux, et ça depuis longtemps, si vous voulez. Et donc, à la surface de ces particules, va se faire la réaction d'oxydation, par exemple du CO en CO2, la réaction de réduction de NO en diazote, et donc ensuite, vous avez en sortie, vous avez le gaz qui est dépollué. Et ceci se fait en quelques fractions de seconde. Donc vous voyez, eh bien, donc là, vous avez un peu de chimie, là, de chimie. Vous avez ensuite tous les phénomènes de transport, diffusion, faire en sorte que les gaz puissent diffuser dans cette couche poreuse. Et ensuite, vous avez le système, proprement dit, qui peut être embarqué sous forme donc, de peau catalytique dans votre gaz, dans votre système d'échappement. Donc, pour résumer, eh bien, en fait, cette catalyse 3 voies est bien maîtrisée, riche à SIGMA 1. Les problèmes en suspens, bien sûr, le démarrage à froid, vous prenez votre voiture. Pour que le catalyseur marche, il fonctionne, il faut typiquement une température de 250 à 300 degrés. Donc si vous prenez votre voiture le matin à froid pour aller faire 200 mètres ou même 300 mètres, ou même 1 km pour aller chercher 300 à venir chez vous, et bien là, votre peau catalytique n'aura pas de fonctionner. Et donc là, effectivement, la pollution va être importante. Alors ceci est régulé dans des tests, et donc ce démarrage à froid reste en suspens. Il y a aussi un autre problème, le vieillissement des catalyseurs. Vous avez vu, c'est du platine, du rhodium, du palladium. En gros, il y a 1 gramme de platine, palladium, rhodium par voiture. 1 gramme. Vous savez tous ce qu'est du platine, vous avez une idée. Et en gros, c'est 2 grammes, ça doit être dans les 250 euros à peu près. Donc vous voyez, le kilo, c'est dans les 5000 euros ou quelque chose comme ça, de platine. Donc vous voyez, ça vous donne une idée. Donc autrement dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller récupérer le platine là-dedans? Non, on le récupère pour une autre raison, c'est qu'à la fin de vie du pôle catalytique, on ne va pas tout simplement les jeter. Et il est bien de récupérer, mais c'est un travail monumental de récupérer donc, le platine, les catalyseurs et de démanteler donc, le pôle catalytique. Donc vous voyez, là aussi, il y a donc des nouveaux besoins donc, en technologie. Et il y a toujours le problème des fines particules, puisque comme vous le savez, il y a toujours des émissions donc, de petites de fines particules, même pour le moteur à essence. J'ai encore combien 5 minutes. Terminé? Non, mais bon, ben, alors, pour le pôle analytique diesel, pour ceux d'entre vous qui sont diesel, je n'insiste pas trop, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez ces suites qui sont embêtantes, c'est des nanoparticules. Vous voyez la taille, c'est 100 nanomètres. Vous avez donc le filtre à particules, comment ça marche? Eh bien c'est très simple, et j'en arrêterai là. Le filtre à particules, c'est exactement ce que vous avez, ce qui circule en ce moment, à simplement sur le fait que à l'une des extrémités, vous avez la cellule est bouchée. Pour que le gaz soit forcé ici de passer à travers les parois poreuses, et vous avez donc ici l'accumulation des suies. Et j'en aurais terminé, parce que j'aurais dit que, eh bien donc, lorsque le pot est plein de suies, qu'est-ce qu'il faut faire? Ramoner, c'est pas la solution, bien entendu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en route un système de dépollution, ça signifie qu'on va de nouveau avoir ici un catalyseur, hein, sur les parois, qui va permettre, en ajoutant un tout petit peu de carburant, et donc en chauffant davantage les gaz d'échappement, vous pouvez allumer votre peau, donc les suies, vous avez un peu dit, ça en allume le pot de régénération. Et donc ceci se fait tous les 300, 400 km. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la technologie de diesel, on dit que vous entendez un tout petit peu le propre lorsque le système de régénération se met en route. Et typiquement, ce système de régénération va vous coûter en gros 1% de consommation en plus par rapport à un cycle. Donc vous avez. Vous faites, mettons voir, 8 km. Donc pour terminer, eh bien, les perspectives. Pour le moteur diesel, eh bien donc là, effectivement, il faudra trouver des nouvelles voies pour traiter les oxydes d'azote, et on pense notamment à l'urée, puisque l'ammoniac est trop toxique. Pour l'utilisation, bien sûr, en ville d'un moteur hybride, très bien, mais un petit peu plus cher, bien entendu. Et puis également, vous avez un problème qui peut résoudre certains problèmes, mais pas tous, c'est donc les carburants issus de la biomasse. Voilà, j'en ai terminé. J'étais un petit peu...